le temps de...
En 1987, Croc Vacances se termine. Vous redonnez leur liberté à Isidore et Clémentine. Et a priori, bon, il semblerait que l'arrivée de Dorothée et de ses compagnons a entraîné la fin de Croc Vacances, d'une manière directe ou indirecte, hein, peu importe. Et est-ce que vous avez ressenti une petite amertume ou une rancune envers Dorothée ou envers AB Productions ?
Pas du tout, parce que si vous voulez, il faut reprendre la genèse de l'opération.
Oui, n'hésitez pas.
Plus logique, parce que à force de dire, je veux dire, Clotira a été viré par Dorothée, ce qui est pas vrai du tout.
Voilà, ce sont des bruits qui courent, je vous confirme.
Donc, j'aime bien rétablir les choses. Simplement, lorsque Dorothée a été nommé responsable de la jeunesse, mais ça, c'était pour le fun, j'allais dire, parce qu'on savait bien que c'était plutôt Azoulay Berda de AB Productions qui étaient les patrons. Donc, Dorothée, lorsqu'elle a été nommée, à la surprise de tout le monde, si vous voulez, à la privatisation de TF1, j'étais le premier où elle m'a appelé avant que ce soit officiel, en me disant « Rassure-toi, on te garde, il n'y a aucun problème, et on déjeune ensemble pour pouvoir en parler. » Donc, avant que l'information même presque soit diffusée d'une façon très large. Donc, Dorothée me gardait. C'était l'époque où il y avait une espèce de surenchérissement des différents salaires. On multipliait mon salaire par 4 pour concurrencer, pour pas que j'aille sur la 5 ou ailleurs. Donc c'était dans un premier temps très bien, mais je me suis aperçu qu'on avait quand même des conceptions assez différentes de la télévision. En plus, comme Dorothée occupait une grande partie de l'antenne en direct, puisque les émissions du club étaient en direct, donc ça m'obligeait pour les vacances, à enregistrer parfois même la nuit pour laisser le plateau libre, parce qu'il fallait que les plateaux tournent au maximum. On arrivait dans la période de rentabilité au maximum, donc il n'était pas question de laisser un plateau vide même le soir ou la nuit. Et puis en plus, il y avait le contenu, si vous voulez, il n'était pas envisageable pour moi, qui avait quand même une espèce d'éthique de la télévision et puis de ce que j'aimais faire, parce qu'il y avait toujours mon côté journaliste qui était pas loin, de dire bon, je suis pas fait pour prendre des seaux d'eau ou des tartes à la crème sur la tête, quoi. Donc donc j'ai décidé de partir. Donc contrairement, Dorothée a essayé de me retenir, si vous voulez, mais non, c'était plus possible, donc il valait mieux que je parte, quoi. Donc et ce qui m'a valu d'ailleurs une période un petit peu difficile après sur le plan de retrouver du travail, parce qu'on vous dit « Oh, mais t'as pas de problème, tu vas retrouver ». Ça n'est pas forcément évident. Non, pas.
D'accord. Ça veut dire que vous auriez pu intégrer la bande à Dorothée, la bande à Jackie Corbier, pour participer au Club Dorothée ?
Ah oui, oui, c'était tout à fait prévu comme ça. Donc il fallait... D'accord. Bon, je gardais les émissions vacances. Ce que Dorothée et puis AB aimaient bien, c'est que j'avais été aussi un des premiers à faire des émissions en extérieur, aussi bien dans les départements d'outre-mer qu'en France, dans des lieux importants comme le château de Pierrefonds ou dans des eaux ou même dans des thématiques sur la bambouserie d'Anduze ou autre. Oui. Donc, je veux dire, on va faire les extérieurs. Et puis, pour vous donner une anecdote, Dorothée me dit « Quel est ton prochain extérieur prévu ?» Ben, je dis « C'est l'Égypte, où j'étais en négociation depuis 3 ans avec les autorités culturelles de l'Égypte pour faire une émission. » Et puis elle dit « Oh, ben, très bien, on continue, on va la faire. » Et puis moi, je serai en Néfertiti, Jackie en Pharaon, au pied des pyramides. Quand on connaît les difficultés pour pouvoir tourner déjà des émissions, j'allais dire normales, de reportage au pied du Sphinx ou des pyramides, je me voyais pas très bien appeler l'Égypte pour dire « Bon, il va arriver Néfertiti et un Pharaon un petit peu t'opérette. » Donc, et c'est peut-être le déclic qui a fait que je me suis dit il faut vite que je donne ma démission.
D'accord, très bien. Bon, de vous à nous, et je pense être la voix de la majorité de nos visiteurs, de nos internautes, je pense que vous avez bien fait de décliner l'invitation. Ça nous aurait peut-être attristé de pouvoir recevoir des chasses d'eau ou des tartes à la crème.
Voilà, c'est gentil. Non, mais je veux dire que il fallait le faire tout de suite, parce que je ne me serais pas vu. C'était beaucoup plus difficile de dire je m'arrête dans 2 mois ou dans 3 mois plutôt qu'il fallait pas que je me lance dans le système. Parce qu'après, j'aurais pu être pris ou par l'ambiance ou par l'argent.
Ou par le confort,
il faut pas négliger ce côté important, mais qui n'était pas la preuve pour moi, puisque j'ai décidé d'arrêter tout de suite.
Très bien. Donc effectivement, vous avez bien fait de rétablir cette vérité. Les choses se sont très bien passées avec Dorothée et AB Productions, et en aucun cas, il n'y a eu une quelconque embrouille.
Pas du tout, et même, je peux vous dire que après, quand j'ai été directeur des programmes de Canal J, la chaîne Câble et Jeunesse, si vous voulez, dans des congrès ou autres, je me suis retrouvé avec Dorothée et avec Azoulay ou Berda, et nous avons eu des rapports très amicaux et très conviviaux. Il faut pas oublier aussi que les disques que j'ai commis, je dis commis parce que c'est pour aussi un gadget, ont été produits par AB Productions.
D'accord. Vous avez travaillé ensuite pour Canal J, puis vous avez animé quelques autres émissions, Bonjour les baskets ou Croque Matin, sur le service public. Puis ensuite, vous avez repris des activités plus pour adultes en participant au lancement de Télé Toulouse ou en travaillant à la chaîne Météo. Mais pour revenir aux émissions actuelles pour la jeunesse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a une différence? Qu'est-ce que, selon vous et votre ressenti, elles prennent suffisamment soin des enfants et de leur accompagnement, de leur développement?
Mais écoutez, il faut dire que je regarde assez peu toutes ces émissions. D'abord, il y en a beaucoup quand même quand on prend un petit peu toutes les chaînes.
Oui.
Donc, où on s'est saupoudré sur les chaînes TF1, mais pour moi, c'est une espèce de robinet à dessin animé ou à série.
Voilà.
Je veux dire que je ne pense pas que dans 15 ans ou 20 ans, les téléspectateurs se souviendront peut-être de certains dessins animés, mais pas du tout d'animateurs, puisqu'il n'y en a plus. Donc, de se dire que la nostalgie par rapport à des gens comme Dorothée, Soizic ou moi n'existe plus. Donc, il y a quand même eu un changement. Alors, c'est vrai que si on regarde, il y a des dessins animés ou des émissions qui sont intéressantes, mais le problème, c'est qu'elles sont très ciblées. Vous prenez une émission comme C'est pas sorcier, qui est très bien faite, qui apprend des choses, mais je veux dire qu'il faut avoir envie d'aller la regarder, parce que en face, vous allez avoir peut-être des dessins animés beaucoup plus faciles à regarder, que l'intérêt d'une émission comme Croque Vacances, c'était que on passait d'un dessin animé à un reportage de 5-6 minutes de découverte ou simplement de curiosité ou d'information, et donc les jeunes restaient devant la télévision. Bon, je pense qu'il faut être clair que maintenant ça ne serait plus possible parce que la zapette est pas loin, et donc pendant un reportage qui vous ennuierait un petit peu, ben on passerait sur une autre chaîne. Donc le format ou le schéma de Croque Vacances ou des émissions, puisque les visiteurs étaient à peu près calés sur le même sur le même schéma, avec là des séquences beaucoup plus longues en ce qui concerne les parties, disons, sérieuses ou découverte ou éducative, ça ne marcherait plus maintenant.
D'accord, bah vous avez anticipé ma question suivante, qui était de savoir si vous pensez qu'une version plus ou moins moderne de Croque Vacances aurait encore sa place aujourd'hui avec ce mélange de reportage, de fiction, d'animation en plateau. Hein.
Non, ça c'est plus, ça me paraît plus possible. Je veux dire que il y a pas mal de personnes qui autour de moi ont essayé de me convaincre que ça pouvait être bien. Je les ai toujours dissuadés de le faire, si vous voulez, non pas avec moi en tant que présentateur, bien sûr, parce que pour moi, c'est quand même une période un petit peu révolue, mais je ne pense pas que ça marche, et puis, à chaque fois, il n'y a pas eu de suite, et c'était tant mieux, quoi.
Est-ce que ça vous manque, ou est-ce que ça vous a manqué d'animer des émissions pour enfants?
Non, parce que j'ai toujours eu la chance de décider de mon avenir, en quelque sorte. J'ai quitté TF1 volontairement. Après Antenne 2, avec Croque Matin, j'ai décidé d'arrêter de l'antenne. Je voulais le faire depuis longtemps. Vous savez, quand on est animateur d'émissions jeunesse, on se dit, bon, quand vous avez 25 ou 30 ans, je vais faire ça quelques années. Quand vous arrivez à 40, vous dites, je vais m'arrêter à 40 ans, puis vous continuez un petit peu. Bon, je me suis arrêté les derniers antenne, entre guillemets, était dans les années où j'avais 44 ans. C'était déjà pas mal. Mais après, bon, c'était... Et puis j'avais eu la chance de rester dans le secteur jeunesse avec Canal J, où là, on passait au stade supérieur, aussi bien dans la hiérarchie d'une chaîne, mais il fallait savoir arrêter. C'était clair que... Donc j'ai aucun regret et aucune nostalgie, enfin peut-être la nostalgie un petit peu, parce que c'était une belle époque, mais je pourrais avoir la nostalgie de la régionale de Reims ou comme du journal de 13h. Bon, oui. J'ai eu la chance d'avoir une carrière assez variée et puis que j'ai menée correctement, je pense.
Très bien. À présent que l'univers de la télévision est derrière vous, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vie maintenant? Est-ce que vous participez à des projets, de l'associatif, même si c'est pas du tout lié à l'univers de la télévision?
Oui, bah écoutez, maintenant je suis un retraité, comme on dit, donc l'année prochaine je vais quand même fêter mes 70 ans, donc c'est quand même pas mal. Donc je m'associe un petit peu à la vie d'une commune où je suis, dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle Thouars, où je viens d'arriver, donc je participais à quelques associations un petit peu sur le plan culturel et puis essayer de faire bouger un petit peu la ville qui a plein de possibilités mais qui n'est pas exploité, qui ne sont pas exploités à fond. Et puis surtout, j'ai eu la chance ou la malchance, je vais plutôt dire la malchance au départ, d'avoir un cancer qui a entraîné il y a 2 ans une transplantation du foie. Et donc j'ai décidé, pour remercier à la fois mon donneur et puis tous les autres donneurs, de m'investir beaucoup dans les associations qui essayent d'expliquer qu'il faut absolument donner ses organes et que malheureusement, dans des circonstances parfois difficiles, il est bien de penser aux autres qui peuvent être sauvés grâce à vous, même après que vous ne soyez plus là.
Très bien. Bon, bah c'est bien, vous n'êtes pas inactif.
Non, ouais. Pas inactif. Non, ça serait malheureux après une vie quand même, j'allais dire, assez remplie, oui. De s'arrêter comme ça d'un seul coup. Quoi. C'est d'ailleurs valable pour tout retraité.
Bien sûr.
Il faut pouvoir conserver, je veux dire, une ouverture sur le monde qui vous entoure et puis profiter pleinement justement des moments de libre pour faire des choses qui, sans rapporter d'argent parce que c'est pas le but, permettent de rencontrer du monde et puis de faire évoluer parfois les mentalités et puis donner l'envie aux gens de faire plein de choses.
Eh bien, vous avez tout à fait raison. Pour terminer cette belle interview, on va revenir quelque peu sur les années 80 de manière générale. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre vision globale des années 80. Quels sont pour vous les meilleurs ou les plus mauvais souvenirs, bon, de votre carrière personnelle tout d'abord et éventuellement des années 80?
Mais écoutez, dans les années 80, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, ou ça peut être vraiment des choses très très anecdotiques. Il est certain que le départ de TF1, plus, il faut le dire, des périodes de chômage courtes quand même, heureusement pour moi, ont été quand même assez difficiles à vivre par rapport à une activité, mais... dans l'ensemble, il faut garder un côté assez positif des épreuves que vous pouvez traverser. Ça vous oblige à vous remettre en question et puis à évoluer dans différents secteurs, aussi bien sur le plan professionnel que même au fond de vous-même, en disant je ne suis pas, j'allais dire, intouchable, si on peut reprendre un petit mot très à la mode actuellement. Quoi. Donc tout peut arriver dans le bien comme dans le mauvais.
D'accord.
J'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs, c'est une globalité. Les souvenirs, je vais pas vous dire l'interview de telle personne ou autre, parce que si vous voulez, on s'en rend compte après parfois. Une petite anecdote, Céline Dion a fait sa première télévision en France,
oui.
Dans Croque-Vacances. Je veux dire qu'à l'époque, quand j'ai reçu Céline Dion qui avait 14 ans, je pensais pas que ça allait devenir la star internationale, bien qu'il y avait déjà quelque chose qui faisait penser qu'il allait avoir une suite assez longue, puisque après l'avoir reçue, j'ai terminé la chanson en venant en plateau et en disant Céline Dion, elle a 14 ans, souvenez-vous de son nom parce qu'on va en parler pendant très longtemps. Donc il y avait déjà une petite intuition. Non, des bons souvenirs, c'est par exemple aussi, comme quand je revois Nikos maintenant avec la carrière qu'il fait, de savoir qu'il a fait sa première télévision en France dans Croque Vacances, habillé en grec avec la petite jupette pour nous parler de son pays, la Grèce. Ouais.
Voilà, très bien. Bon, va falloir remettre la main sur ces images.
Oui, elles existent, hein, parce qu'elles passent en général dans les enfants de la télé ou autre.
Oui, je me doute, ouais. Et sinon, quels sont pour vous les objets ou les émissions, les personnages typiques des années 80 ou même les événements qui vous ont le plus marqué?
Bah, les années 80, il y a quand même eu, je veux dire, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Ouais. Alors qu'on en pense du bien ou pas, c'était quand même un grand changement avec, en ce qui concerne l'audiovisuel, la création des radios libres, qui était un petit peu le début de tout ce qu'on a pu connaître dans l'évolution, et j'allais même dire l'explosion un petit peu de la télévision. Donc ça, c'était important. Mais je crois que c'était surtout l'envie d'aller vers quelque chose et non pas de se replier ou d'être négatif comme je le vois un petit peu maintenant, où on ne voit que le mauvais côté des choses. On savait, à mon avis, plus faire la part de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien à l'époque. Et bon, c'est vrai que vos internautes ont aussi la nostalgie de cette époque, c'est pour ça qu'ils viennent sur votre site. Et, mais il faut aussi penser qu'il y a une vie maintenant, quoi.
Ah bien sûr, exactement. Bon, c'est ce qu'on se tue à dire à tout le monde, c'est on n'est pas forcément nostalgique, on aime cette période et on aime les souvenirs qui y sont associés. Et il faut faire en sorte que ces souvenirs nous aident à mieux vivre maintenant, mais sans forcément regarder systématiquement vers le passé. Hein.
Exactement, je crois qu'il faut en garder l'esprit. Si vous voulez, et puis essayer de l'adapter à l'année 2012 et aux suivantes.
Tout à fait. Et on va remonter peut-être un tout petit peu avant les années 80 pour savoir si vous-même vous êtes nostalgique de votre enfance ou de votre adolescence.
Non, parce que j'ai eu une enfance, bon, j'ai eu la chance d'avoir une enfance toute simple avec des parents qui étaient petits commerçants dans les Ardennes. D'avoir une scolarité à peu près normale, sans être ni un cancre, ni un super premier avec prix d'excellence. Donc une enfance assez calme et heureuse, aussi bien sur le plan familial que sur l'évolution de ma carrière. Je voulais faire de la télévision, ce qui, je veux dire, surprenait mes parents qui disaient... Mais attends, la télévision, ça se fait pas comme ça, on connaît personne, on n'a pas les moyens, je vois pas comment tu vas pouvoir y arriver. Donc, bon, ça s'est fait, donc ça c'est une bonne période. Et puis, ça s'est fait très vite, donc j'ai commencé à faire des mini-concours ou autres, j'avais 17-18 ans, et après ça a évolué assez rapidement. Donc, cette période-là pour moi est tout à fait heureuse, ouais. Dans tous les sens du terme.
Très bien. Eh ben c'est un joli mot de la fin. Claude Pierrard, je vous remercie infiniment donc, au nom de tous les enfants que nous étions, que vous avez accompagnés grâce à vos émissions. Ils m'ont chargé de vous embrasser bien fort. Il y a eu beaucoup de questions, mais la question qui revenait le plus souvent, ce n'était pas une question, c'était des remerciements.
C'est très gentil à vous, parce que les remerciements vont aussi de mon côté vers tous vos internautes et tous ceux qui sont sur le site etis.fr. Et franchement, moi ça me fait vraiment très très plaisir de voir surtout l'image qu'ils ont gardée, parce que c'est vraiment, sans savoir que des années ou des dizaines d'années après, cette image elle est encore restée très vivante et très vivace, de voir c'est ce qu'on a voulu faire au départ et que c'est bien qu'il y ait encore un prolongement grâce à des sites comme le vôtre.
Oh, merci pour ce joli mot de la fin. Eh ben, on vous dit à très bientôt sur le forum et sur le site pour avoir de vos nouvelles.
Sans problème, ce sera avec plaisir.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.